Nous allons commencer par la prière. Seigneur, tu nous fais jouir de ta grâce, de ton amour, de ton pardon. C'est en tant que grain de sable, ici-bas, perdu dans cet océan que l'on peut appeler la création. Tu nous connais chacun par notre prénom. Tu nous connais chacun dans la profondeur de notre cœur. Je te prie que ce que nous partageons soit une nourriture qui donne la vie. Je te prie que ce que nous partageons soit un éclairage pour nous, pour chacun de nous, que dès l'instant que nous le recevons, nous puissions recevoir ton éclairage, que ces paroles se transforment en vie pratique tous les jours, que tu puisses nous transformer, que tu puisses nous rentrer dans cette métamorphose tant voulue, commencée par le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort, qui est ressuscité, mais par cet acte accompli, il ouvre le chemin, la porte pour notre propre mort, notre propre résurrection. Je te prie de faire en sorte que nous diminuions pour que toi tu grandisses. Je te prie de faire disparaître tout ce qui peut venir de l'homme, afin que toi seul, tu puisses parler, que tu puisses s'adresser à chacun de nous, à moi le premier. Amen. Nous reprenons ce que nous avons déjà commencé avec notre sœur Jessie Penn-Lewis. Donc nous avait dit que ça sera sur trois dimanches. Et le thème qui réunit tout ce qu'elle a dit notre sœur, c'est « mourir pour vivre ». Tout ce que nous partageons, tout ce que nous disons là, c'est « mourir pour vivre ». Voilà le thème, le grand thème que cette sœur Jessie Penn-Lewis nous transmet, non seulement à travers ce qu'elle a appris, mais à travers ce qu'elle a vécu. Les paroles qu'elle a prononcées, c'est l'expression de ce qu'elle a vécu. Ce n'est pas l'expression de ce qu'elle a appris. La dernière fois, c'était le chemin de la délivrance. Le chemin de la délivrance, c'est-à-dire que nous ne pouvons commencer notre chemin de la délivrance que si nous découvrons, que si nous rencontrons celui qui ouvre le chemin de la délivrance. Je peux me délivrer moi-même, je peux faire des efforts, nous sommes tous des êtres humains. Pour certains, il a fallu des années. Pour d'autres, il faut juste quelques jours. Pour d'autres, il faut des mois. Chacun a son cheminement personnel avec le Seigneur. Mais tôt ou tard, le Seigneur nous ramène à ce mur où nous découvrons de nous-mêmes que de nous-mêmes, on ne peut pas se délivrer. On peut arriver à un semblant de délivrance, mais la vraie délivrance vient du Seigneur parce que c'est lui le premier qui a ouvert la porte. Dans notre prière connue, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Comme elle est faite au ciel. C'est-à-dire, la volonté du Seigneur s'applique aussi sur terre parce qu'elle s'est déjà accomplie au ciel. Si nous ne réalisons pas cela, on continuera à courir, moi le premier. Le Seigneur a tout accompli. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la chair et même la mort physique. Au lieu que ce soit un aiguillon, elle devient un passage naturel avec joie. Ça, c'est déjà fait. Le Seigneur est assis à la droite du Père, la parole nous dit. Il est assis à la droite parce qu'il a tout accompli. Il a jeté le diable du ciel. Il n'est plus au ciel, le diable. Il n'est pas là, il est ici-bas. Et non seulement il a dit ça, le Seigneur, mais il a dit... Parce que je suis assis au ciel, vous êtes avec moi. En ce moment que nous sommes là, je ne cesse de le répéter, nous sommes au ciel. Nous nous voyons, parce que ça c'est la chair, ça c'est le monde, c'est le visible. Nous nous voyons, on a l'impression qu'on est sur terre. Mais notre réalité spirituelle, que nous ne voyons pas, que nous ne sentons pas, cette réalité spirituelle, elle est en ce moment au ciel, on est à la droite du Père. C'est pourquoi notre joie, elle doit être d'abord, Seigneur merci, nous sommes dans la joie. Nous pouvons être malades. Ne pas avoir des problèmes, ne pas avoir tout ce qu'on veut, ça c'est le visible, c'est ce que nous voyons. Mais Dieu nous dit, malgré cela, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, parce que votre réalité, ma réalité, il est au ciel. Tout est accompli. Et quand nous réalisons cette réalité-là, quand nous réalisons que je suis avec et dans le Seigneur à droite du Père, je réalise que j'ai vaincu avec le Seigneur le diable. Nous sommes plus que vainqueurs, la parole nous dit. Quand je réalise cela, je marche dans la foi. Il peut arriver n'importe quoi. Je remercie le Seigneur parce que je suis plus que vainqueur par celui qui a tout accompli. La parole de Dieu qui lui dit, encore une fois. Ça, c'est la base. Quand nous réalisons cela, on peut marcher en nouveauté de vie. Non, pas en sorte que nous essayons de nous changer nous-mêmes, non, pas du tout. Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous sommes assis à la droite du Père, nous sommes dans le ciel, nous avons tous ici, en tant que frères et sœurs, l'Église, nous avons l'Esprit Saint en nous. Il ne faut pas se dire, il faut que je le voie en moi de tous les jours, dans mes membres, pour avoir la preuve que je l'ai. Non, la parole de Dieu nous dit, quand vous avez ouvert votre cœur, quand vous êtes converti, vous avez reçu l'Esprit Saint. Ce n'est pas dit, si vous marchez dans la droiture, si vous n'avez plus de péché, vous avez l'Esprit Saint. Ça, c'est un mensonge. Nous avons l'Esprit Saint depuis que nous sommes tournés vers le Seigneur, vers Dieu. Et ça, c'est un gage, c'est une promesse, c'est une grâce. Et nous l'avons aujourd'hui. Et c'est cet Esprit Saint qui fait que toute l'Église, que ce soit ceux qui sont déjà morts, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, on est tous unis dans le même esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis que nous sommes ici, mais nous sommes dans le ciel, parce que l'Esprit est éternel. Il est au ciel, c'est en Christ. C'est une réalité qu'il faut connaître. Aujourd'hui, notre sœur, après son expérimentation pratique, partage avec nous l'Esprit, partage avec nous les profondeurs de la croix. Elle nous dit que maintenant que nous avons réalisé cette réalité-là, qu'est-ce qu'elle doit faire la croix en nous, concrètement? Eh bien, la croix, elle va aller jusqu'aux profondeurs de notre être pour chercher même ce qui nous paraît petit qu'on ne sait pas, pour le briser, pour faire en sorte qu'on vive cette sanctification. Et je vais lire avec vous 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 10. 1 Corinthiens 2, versets 6 à 10. Ce message de la croix que nous essayons de saisir par notre intelligence, et à chaque fois que nous cherchons de saisir par notre intelligence, on est confronté à l'ignorance. C'est ce que la Bible appelle la folie. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, car Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, hein, c'est pas le visible, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour nous, pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà la vie spirituelle, la communion avec le Seigneur entre tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La croix a un double message. La croix a un double message. Il y a le message que nous pouvons retenir, et certes nous avons retenu, c'est « Christ est mort pour nous ». Mais l'autre message de la croix, c'est « Nous sommes morts ». Christ est mort pour nous, nous sommes morts. Christ a fait pour nous, mais nous appelle à suivre le même chemin. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 6 et 7. Vous lisez ces deux chapitres, c'est très bien détaillé. Le règne de la mort qui a prévalu sur toute l'espèce humaine est la preuve de la chute de l'homme. La mort est entrée dans le monde par le péché. Nous le savons tous. Romains chapitre 5, nous enseigne que Christ est mort à notre place, afin que nous puissions devenir participants de sa vie de résurrection. Romains chapitre 6 nous apprend comment nous approprier cette vie. Si Christ est mort pour nous, afin que sa vie puisse nous être communiquée, nous sommes morts avec lui pour être rendus capables de la recevoir virtuellement. C'est une réalité, on peut dire virtuelle, mais elle est spirituelle, elle est réelle. Mais si nous nous l'approprions, elle se transforme en vie pratique dans notre vie de tous les jours. Il faut que nous devenions une même plante avec lui par la conformité à sa mort. C'est cela la deuxième facette. Seigneur est mort pour nous, mais nous devons aussi être dans la même plante que lui, accepter cette mort. Je vais le lire avec vous dans Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6, versets 5 à 7. Romains 6, versets 5 à 7. En effet, Si nous sommes devenus une même plante avec lui, qui dit la même plante, suivre le même chemin. Ce n'est pas une plante à côté, c'est la même plante. Une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Tout est conjugué au passé. C'est déjà fait. Et nous sommes dans la même plante que le Seigneur. Mais que signifie cette mort avec Christ? En premier lieu, elle signifie mourir au péché. Avec un P majuscule. Il faut mourir à ce péché en tant que maître et tyran. Au péché et non à nos péchés. Les péchés que nous vivons, c'est les conséquences du grand péché. C'est qu'on est à côté de la cible. Elle signifie en outre tout ce que Dieu veut faire pour nous par la crucifixion de notre vieil homme avec Christ. Et il suffit de lire Romains chapitre 6, verset 6. Le Saint-Esprit est prêt à la rendre efficace jusqu'au tréfonds de notre être intérieur, jusqu'à ce que le péché ait perdu son empire dans tous les domaines. Cette mort agit d'une manière plus profonde que ne l'implique le renoncement aux choses visibles et extérieures. Elle pénètre dans les retranchements les plus secrets de notre être, jusqu'à ce qu'elle ait établi une libération absolue, progressive bien entendu, progressive, ça ne vient pas du jour au lendemain, absolue de l'esclavage, de la tyrannie du péché. Elle accomplit une œuvre si étendue par le ministère de l'Esprit éternel, lui-même que le pivot de notre vie est changé et que l'âme, notre âme, elle est replacée dans son centre légitime. Notre âme, c'est tout ce qui est nos sentiments, nos capacités de réfléchir, etc. Elle est replacée, elle n'est pas anéantie, elle est seulement transformée, replacée dans une nouvelle nature qui plaît à Dieu. Dieu n'anéantit pas notre âme, mais la rétablit selon un nouvel ordre. Soit je vis avec mon âme en côtoyant Dieu et là je suis dans une religion, mais le Seigneur nous appelle à plus que ça. Notre âme, elle doit mourir à nous-mêmes pour qu'il y ait une nouvelle nature selon la stature de Dieu. On ne perd pas nos qualités, on ne perdons pas nos dons, mais seulement le Seigneur veut les transformer, les mettre à son service. Il ne faut pas que je décide moi-même de servir Dieu, il faut que le Seigneur nous transforme pour nous rendre à son service. C'est complètement différent. Quand l'Esprit de Dieu effectue cette œuvre radicale en faisant nôtre la mort de Christ, il s'agit d'une opération d'une plus grande portée. Que la seule purification de notre cœur ne suffit pas. On veut se purifier, le Seigneur veut nous crucifier. Ça va plus loin. C'est une coupure, une séparation qui ne peut être exprimée que par tout ce que le mot « mort » veut dire. Le croyant est soustrait à un maître cruel appelé péché. Par l'action de l'Esprit de Dieu qui s'exerce au centre même de son être et l'affranchit afin de le rendre capable d'obéir à Dieu. L'Écriture ne dit pas qu'il est désormais impeccable. La Bible ne dit pas que quand je suis chrétien, je suis ça et je suis parfait. La Bible ne dit pas que je n'ai plus de péché, qu'il n'y a plus de péché en moi, mais qu'il y a une coupure entre moi et le péché, par l'imputation de la mort de son substitut, qui a livré sa vie à sa place au calvaire, de telle sorte qu'il en est désormais une même plante que le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle, dans Romains 6, le chapitre 6, d'ailleurs Romains 6, il suffit de le lire, c'est la grande, si on veut chercher une charte ou une profession de foi pour l'Église, il suffit de lire Romains 6. On peut même la mettre sur le site internet. Romains 6, c'est la grande charte de l'Église de Christ. L'apôtre Paul fait alterner d'une manière si remarquable les mots « sa mort » en parlant de Christ avec « nous sommes morts ». Les deux vont de pair, comme s'ils concernaient un seul et même fait, ce qui du reste est le cas dans les merveilleux plans de rédemption de Dieu. Il est mort pour nous, Nous devons suivre le même chemin de la mort, il n'y en a pas d'autre. Il se peut que vous luttiez contre vos péchés. Il se peut que je lutte contre mes péchés, jusqu'à être fatigué de la bataille. Il se peut que nous cherchions la purification de notre cœur. Ou peut-être nous avons expérimenté pendant un certain temps une soi-disant libération qui revient, mais qui nous fait vivre une lutte épuisante. Mais l'œuvre de Dieu va plus loin. Pour nous libérer, il va plus loin. Il va aller à la racine, il va nous rentrer dans cette croix pour nous crucifier même notre être intérieur, le transformer en nouvel Adam. Nous sommes morts au péché, la parole le dit. Commençons par saisir cette réalité. Ne cherchons pas à lutter pour nous libérer du péché. De toute façon, on faillira, on tombera. Par contre, si nous voulons vivre la libération, saisissons-nous de la réalité que nous sommes en Christ, morts au péché. Et par l'action du Saint-Esprit qui rend cette mort efficace pour nous. Vous voyez ? Le Saint-Esprit rend la réalité efficace si nous réalisons que nous sommes déjà morts. Je ne peux pas vivre en tant que riche si je ne réalise pas que je suis déjà riche. Oui, je peux courir dans le monde pour m'enrichir. Mais ce n'est pas ça. Dieu nous dit, vous êtes riche. Comportez-vous en tant que riche. Mais nous cherchons toujours à nous enrichir. Mais ça, c'est la nature humaine qui est la plus grande ennemie de Dieu. Souvent, nous citons Satan, le diable, mais la nature humaine, elle va à l'encontre du plan de Dieu. La Bible nous dit, vous êtes affranchis afin de vivre pour Dieu libre. Nous sommes affranchis. Jusqu'à quelle profondeur consentons-nous à ce que Dieu aille dans notre vie intérieure? Désirons-nous réellement être délivrés du péché? Haïssons-nous réellement le péché? Dieu veut avoir affaire au centre de notre être, qu'il puisse commencer son œuvre tout au fond et y dresser la barrière de la mort entre nous et notre tyran, le péché. Proclamant comme Dieu déclare, nous sommes crucifiés avec Christ, Galates 2:20. Nous sommes crucifiés avec Christ. Nous sommes déjà morts. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, même si dans notre visible, nous ne le voyons pas. Si je continue à m'auto-évaluer et dire est-ce que je suis spirituel ou pas, je suis à côté parce que je ne laisse pas l'esprit agir. L'esprit souvent agit en nous quand on est inconscient de nous-mêmes. Dès qu'on est conscient, on a envie de faire, voilà l'homme qui se met au centre. Je ne suis plus esclave du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et Dieu fera de cette proclamation une vérité pratique par expérience dans notre vie. Mais il n'y a pas que le péché qui se dresse comme un obstacle pour vivre libre. Il y a un autre mal, quelque part, c'est la loi. Oui, il y a un autre esclavage dont nous devons être affranchis et que Paul désigne sous le nom de la loi. Et il suffit de lire Romains 7, et je vais le lire avec vous, Romains 7, verset 6. Voilà ce que nous lisons. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Nous avons été dégagés de la loi. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Ça ne veut pas dire que la loi n'est pas sainte. La loi est sainte, la parole nous dit. Mais c'est nous qui ne sommes pas saints. Si nous ne sommes pas saints, comment peut-on appliquer quelque chose de saint? C'est question de logique, encore une fois. Si la loi vient de Dieu, Dieu donne les moyens pour l'appliquer et la vivre. Comme nous sommes pécheurs, l'ancien Adam, il faut que nous soyons transformés, c'est-à-dire, il faut que nous ayons le nouvel Adam, c'est-à-dire habillé en Christ, pour appliquer ce qui vient de Dieu. Ça va de soi. Derrière la tyrannie du péché, il y a une loi, avec sa verge et ses exigences, qui nous fait réaliser avec amertume notre incapacité absolue de la mettre en pratique. J'aime donner l'exemple du code civil, du code pénal. La loi, elle me montre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est tout. Elle ne me délivre pas. Quand la Bible, elle dit, quand le code civil, il dit, si vous volez, vous allez en prison. Elle me dit ce qui est bien, ce qui est mal, mais elle ne me délivre pas du vol. Mon être restera toujours voleur, mais seulement je sais ce qui est bien, ce qui est mal. C'est exactement la loi. La loi, elle me dit, ça c'est bien, ça c'est mal, c'est tout. Mais pour être délivré, il faut recevoir l'esprit, recevoir Christ, c'est-à-dire une nouvelle nature. Sans cette nouvelle nature, je continuerai à observer, à me forcer. Je sais ce qui est bien, ce qui est mal, mais je ne pourrai pas vivre cette libération. Dieu nous dit par le moyen de la loi, tu feras ceci et tu ne feras pas cela. Et nous, sous la servitude du péché, nous sommes sans force pour obéir. La loi nous dit, l'Ancien Testament, soit on obéit à toute la loi, soit on n'obéit pas. C'est-à-dire, s'il y a les 10 commandements, si nous n'obéissons à 9 et un on n'obéit pas, le fait de ne pas obéir à une seule loi, ça anéantit tout. C'est une règle. Souvent, on dit, je fais de mon mieux. Non, le Seigneur ne dit pas de mon mieux. Tu ne pourras pas. Soit tu obéis à la loi totale de Dieu, et là, tu n'as pas besoin de Christ. Soit tu faillis à 1% de la loi, et là, tu n'as rien fait. Ta nature est mauvaise. Tu dois accepter Christ, qu'il crucifie ta nature, te donne une nouvelle nature. Vous voyez les efforts? Des fois, on a l'impression qu'on fait, mais en fait, on a besoin du Christ. Mais maintenant que nous sommes morts, parce que la Bible nous dit, nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts, la parole le dit. Comment nous savons que nous sommes chrétiens? Vous me dites, parce que j'ai reçu le Seigneur, c'est écrit. Et bien, la même parole qui dit que vous êtes chrétiens, vous êtes sauvés, elle dit, vous êtes morts. Alors pourquoi je dois croire le premier et pas celui-là? Nous sommes morts avec Christ. Que nous le veuillons ou pas, en tant que chrétiens, nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts avec Christ au péché. Et par cette mort, nous sommes soustraits aussi aux exigences de cette loi. Les jours d'oppression sont finis. La loi sous les férules de laquelle nous tremblions est désormais transfigurée. Elle est accomplie en nous par la puissance de l'Esprit. La prophétie de l'Ancien Testament qui disait, Dieu disait, un jour j'écrirai ma loi dans leur cœur. Ça vous parle ce verset? J'écrirai ma loi dans leur cœur, c'est-à-dire en fait. Je ne leur donnerai pas la loi avec laquelle ils vont vivre. Non, cette loi, je vais l'écrire dans leur cœur. C'est-à-dire que sans me rendre compte, sans me forcer, elle devient ma règle de vie sans me rendre compte. Elle devient une nouvelle nature. Et cette nouvelle loi, c'est qui? Mais c'est Christ qui est la parole de Dieu. Donc si je reçois Christ en moi, dans ma nouvelle nature, eh bien, cette loi, elle va devenir naturelle, des fois, sans me rendre compte. Car Christ lui-même vivant en nous est l'accomplissement de la loi. Autrefois, c'était je dois. Et après, il y avait la défaite. Je dois, mais il y avait la défaite. Maintenant, la parole nous dit, je puis tout avec Christ et en Christ. Et c'est la victoire. Jusqu'à quelle profondeur l'épée de la croix doit-elle trancher dans nos vies? Nous avons déjà vu qu'il doit opérer une séparation entre nous et le péché. La croix, elle fait cela. Elle l'a déjà fait, mais parce qu'elle s'est déjà fait, nous pouvons rentrer dans cette libération de tous les jours. La croix doit nous libérer du péché, ce maître implacable qui habite en nous, qu'on le veuille ou pas. La croix nous libère de l'esclavage de la loi. Cette loi n'est plus une contrainte. Elle est écrite en nous, c'est Christ en nous qui est la parole de Dieu. Mais il y a un troisième élément maintenant. C'est toutes les dépendances des choses extérieures. C'est ce qu'on appelle la religion. C'est l'importance exagérée que nous donnons à ces choses. Par exemple, la Sainte Cène, au lieu de prendre le verre, au lieu de prendre un seul verre, on peut prendre des petits verres. En fait, il n'y a aucun mal entre les deux. On peut prendre les deux. C'est ce que j'appelle les superflus. Tous les deux, c'est le sens qui est derrière ce geste qui est important pour Dieu. Pas la forme. Un jour, certainement, nous passerons au petit verre. Ou nous ne passerons pas. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est derrière ce message. C'est que nous sommes unis dans le corps. Le pain que je mange, je mets dans ma bouche, c'est la signification du corps de Christ. Et le vin que nous prenons, qu'il soit jus de raisin, vin blanc, vin rouge ou jus de pomme ou de l'eau, c'est la signification qui est faite derrière, c'est le sang versé par le Christ sur la croix qui nous lave. C'est la nouvelle alliance. Le fait que Paul parle, il se parle du côté religieux dans ses lettres, il est en train de mettre en exergue, mettre en avant cette importance que nous donnons à tout ce qui est habitude et visible. Il s'agit des questions de conscience qui apportent le trouble et la division dans tout le corps de Christ. D'ailleurs, ça existait dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres. Est-ce que j'ose manger ceci ou cela? Les Juifs, quand ils étaient avec les païens, ils faisaient comme les païens. Mais dès que d'autres Juifs de Jérusalem sont venus, hop, ils sont mis à l'écart pour leur montrer, regardez, je me tiens, moi je suis chrétien, mais je me tiens à mes habitudes. C'est l'apparence. Il s'agit des questions de conscience. Est-ce que j'ose manger ceci ou boire cela? Qu'en est-il de l'observation du dimanche? Réunissons-nous le matin ou l'après-midi? 9h, 10h, 11h? Et le déroulement du culte, doit-on commencer par le chant, par la prière? Il faut qu'il y ait un message ou pas? Ce sont des formes. C'est le fond. Dans l'habitude des Juifs, c'était exactement une vie de synagogue. Il y avait un brouhaha dans la synagogue. Les gens ne s'entendaient même pas. Aujourd'hui, on dirait, il n'y a pas d'ordre. Et pourtant, ils se réunissaient, ils louaient le Seigneur. Je vous déconseille d'aller en Afrique noire. Et vous allez avoir ce que ça veut dire ambiance dans une église. Ceux qui cherchent l'ordre et le calme prendront tout de suite l'avion et repartiront. Et pourtant, ce sont des frères et des sœurs. Le Shabbat, institué en Éden, concerne-t-il aussi la nouvelle création en Christ? Né à la vie par le calvaire et la résurrection. Que penser de certains préceptes qui ne sont fondés que sur des ordonnances et les doctrines des hommes? Préceptes généralement négatifs, tels que « ne prends pas », « ne goûte pas », « ne touche pas », choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage, elles ne sont pas éternelles. Ces préceptes, dit l'apôtre Paul, ont une apparence de sagesse. Une apparence de sagesse. En ce qu'ils indiquent l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur pour réprimer la tolérance des passions charnelles. C'est-à-dire que la chair reste la même sous la surface, en dépit de cette prétendue humilité et de ce mépris du corps. La méthode de Dieu est plus excellente. C'est ça qui nous donne la paix. Il fait pénétrer l'épée de la croix jusqu'à la moelle, nous dit la parole, de l'être humain. Et par la bouche de l'apôtre, il déclare « Quand vous êtes mort avec Christ, cela concernait toutes ces choses extérieures aussi. Aucune d'entre elles n'est indispensable au salut. Ce n'est pas parce que je ne danse pas dans l'église, que je n'ai pas le salut, ou l'inverse. Elle ne contribue même pas au développement de la vraie vie intérieure. La chair, la Bible nous dit, la chair, elle n'est pas cajolée. La chair n'est pas massée dans le sens du poil. La chair n'est pas, je dirais, guérie même. La Bible, elle nous dit, la chair est mise à mort. Mise à mort, ça veut tout dire. Elle est morte. Et quelqu'un qui est mort ne bouge plus. Mais c'est une mort qui est progressive dans la vie. La chair a été mise à mort en Christ pour vous. Ça, c'est déjà fait. Et quand nous réalisons cette réalité-là, on rentre dans cette mort de tous les jours. Pourquoi donc nous appuyer sur des choses qui, en réalité, n'ont aucune valeur pour tenir en bride les passions de la chair? Laquelle ne fera que changer de forme et se fera jour d'une autre manière. Ce sont les pensées charnelles, enflées d'un vain orgueil, Colossiens chapitre 2, verset 18, qui sont les instigatrices de toutes ces méthodes ayant pour but de maîtriser la chair. Nous voulons tous maîtriser la chair, mais on n'a pas à la maîtriser, elle est morte. Celle-ci est donc encore renforcée et rendue plus active par les moyens mêmes qui sont employés pour lui mettre un frein. En cherchant à tenir notre chair, on lui redonne la vie parce qu'on lui donne le droit et l'autorisation de lutter. Du coup, on nous fait oublier qu'elle est morte. Mais dire à quelqu'un, ces choses extérieures ne sont-elles d'aucun secours pour le développement de la vie de Dieu, de l'âme humaine? Je le conçois. On peut se poser la question. Ça peut aider quand même, le fait de faire des efforts, de faire des habitudes, etc. Oui. Paul nous indique le moment où elles peuvent lui être en aide. L'apôtre Paul nous le dit. C'est dans le temps de l'enfance spirituelle. Quand on est enfant, tant qu'on est enfant spirituel, on peut s'en servir, on peut l'utiliser. Mais quand on arrive à une maturité spirituelle, ces choses deviennent des détails parce que nous réalisons que nous sommes spirituels, nous sommes déjà assis au ciel et tout ce qui peut nous arriver, nous réjouissons et nous remercions le Seigneur. Elles sont des leçons de l'enfance qui tomberont à la croix. Lorsque sa signification profonde commencera à être révélée à l'enfant de Dieu. Les Colossiens étaient troublés au sujet de ces préceptes. Lisez l'épître de Paul aux Colossiens. Ils se posaient les mêmes questions que nous. Hein. Ils étaient troublés au sujet de ces préceptes, des Shabbats. Hein. Garder l'habitude, il y a de bonnes choses dans la religion juive. Pourquoi ne pas les garder? On ne va pas quand même éliminer ce qui est bon. Oui. On cherchait les compromis, etc. Et ils se condamnaient les uns les autres en se critiquant. Avec autant de vigueur que les chrétiens d'aujourd'hui ne le font à propos de leurs opinions respectives quant au bien fondé, au mal fondé d'une quantité de choses extérieures. Ces choses sont toutes des ombres. Des ombres, des ombres. L'apôtre Paul le crie, des ombres. Il suffit, je vous invite à lire Colossiens chapitre 2, verset 17. Ce ne sont que des ombres. Il est très instructif de constater que Paul n'essaye pas de résoudre la question de conscience. Faites ci ou cela. Il amène les Colossiens à la seule place à réaliser que ces questions peuvent être envisagées sous leur vraie perspective. Mais en dehors du calvaire, toutes ces choses n'ont aucun sens. Toutes choses en dehors de la croix n'ont aucun sens. Tout ce que nous pouvons vivre, si ça ne passe pas par la croix, c'est-à-dire une transformation, c'est-à-dire une mort, une résurrection à l'image de Dieu, ça ne sert à rien. Des choses extérieures insignifiantes finissent par éclipser complètement celles qui comptent réellement, et c'est ça le drame. Le Seigneur nous appelle à revenir au calvaire, à revenir à la croix. Cette croix qui est même critiquée, rejetée, même les religions dites catholiques, et même plusieurs mouvements, les témoins de Jéhovah, tout ce que vous voulez, tous essayent de mettre la croix de côté. Et allez, on va se mettre d'accord sur certains points. J'ai assisté à des réunions écuméniques à Belfort, tout ça, où on essayait de réunir toutes les religions, juifs, musulmans, catholiques, orthodoxes, anglicans. On a dit, nous allons tous prier ensemble le Seigneur. Mais quand je leur ai posé la question, quelle est la place de la croix? Ah! Nous ne parlons pas des choses qui fâchent. Si on ne parle de la croix, il n'y a plus de musulmans, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de... Vous voyez? La croix, c'est le centre de tout. Il faut revenir au calvaire. Il faut revenir au calvaire, mettre de côté tout ce que nous pensons être bon à notre image, parce que tout doit venir de Dieu. Toute discussion qui mène à laisser la croix de côté, ça veut dire qu'on est dans le péché, et le péché veut dire rater la cible à côté de la plaque. Nous sommes appelés à rejeter les leçons de notre enfance spirituelle. Nous sommes appelés à mourir en Christ. Alors, un voile se déchirera devant notre vision intérieure et nous verrons la lumière dans la lumière de Dieu. Je vous invite à lire, parce que je n'ai pas le temps, à lire le psaume 36 et plus précisément, si vous voulez, le verset 10. Nous apprendrons que la seule chose qui vaille est d'être une nouvelle création, je le répète. La seule chose qui intéresse Dieu, c'est être une nouvelle création. Et je vous invite à lire Galates chapitre 6, verset 15. Galates 6, 15. Nous connaîtrons alors que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas le visible, ce n'est pas les habitudes, ce n'est pas la religion, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et encore une fois, je vous invite à lire Romains chapitre 14, verset 17. Nous serons alors délivré de toute tendance à juger et à condamner son prochain pour des détails qui ne sont pas essentiels au salut. Et on ne permettra plus à ces choses de s'élever comme des barrières entre nous et les autres membres du corps de Christ, que ce soit ici, au Creusot ou dans le monde entier. Les dénominations disparaîtront. Nous ne regarderons plus les autres d'après le filtre de la dénomination, mais on les regardera parce que nous sommes en communion dans l'esprit, nous sommes le corps de Christ. Et en critiquant l'autre, je suis en train de critiquer le corps, je suis en train de critiquer Christ. Colossiens, chapitre 3, versets 2 et 3, nous lisons ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, pas d'en bas. Affectionnez-vous des choses d'en haut, c'est-à-dire le spirituel, c'est-à-dire notre position en Christ, et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi ? Voilà la suite. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tout est résumé dans ces deux versets. Telle doit être la suite normale de notre expérience en tant que chrétien normal. Non, ce n'est pas super, c'est pas super chrétien. Non. Un chrétien normal doit suivre ce cheminement-là. À mesure que la mort de Christ agit et retranche plus profondément en nous, la vie d'union avec lui doit se fortifier. La Bible nous dit, je dois diminuer pour que Christ grandisse en moi. Ce n'est pas dit, Christ grandit en moi pour que je diminue. Non, non. La mort commence d'abord en moi. Je dois diminuer pour Christ. Pour que Dieu me remplisse, il faut que je me vide. C'est ça la mort soi-même. À mesure que le péché cesse de régner sur notre cœur et que l'esclavage de « tu dois », ça c'est l'esclavage « tu dois », fait place à l'obéissance de l'amour, à mesure que l'âme est de plus en plus dépouillée de toute confiance en quoi que ce soit, hors de Christ, le croyant, nous, c'est-à-dire le croyant, découvre que sa vie est de plus en plus vécue dans le ciel. Plus je me dépouille, plus je réalise que je suis céleste. Plus je meurs à moi-même, plus je réalise que je suis assis à la droite du Père. Vous voulez que nous expérimentions que nous sommes célestes, nous sommes assis à la droite du Père? Laissons le Seigneur nous faire mourir à nous-mêmes. Plus nous nous vidons, plus on est rempli d'esprit qui nous dit « Vous êtes déjà au ciel ». Jusqu'à quelle profondeur doit agir cette mort en nous? Si profondément que désormais le cœur est attaché aux choses d'en haut et non plus à celles qui sont sur la terre. Il n'a pas fallu de grandes luttes pour en arriver à lâcher ces choses terrestres. L'œuvre de mort de la croix les a retranchées, de telle façon qu'elles aussi soumises à la volonté de Dieu, sont en quelque sorte tombées. Elles ont simplement été mises à leur vraie place. Dieu ne fait pas disparaître nos dons, nos qualités. Il fait seulement mourir les priorités que nous en faisons, jusqu'au point qu'on a l'impression qu'on perd tout. Mais quand il le reprend, il le remet seulement à leur place et il dit « Maintenant, c'est moi qui veux m'en servir, si je veux m'en servir. » Ainsi, nous voyons qu'une véritable communion avec Christ dans sa mort nous dépouille de tout. Elle nous dépouille certes du fanatisme, des extrêmes, mais tout ce qui n'est que le produit de la chair et non de la vie nouvelle d'en haut. Et ça, c'est notre conscience vivifiée par l'esprit qui nous montre jour après jour, ça me dérange, le Seigneur nous parle, ça me dérange. Et il nous les enlève petit à petit comme ça. Mais on ne peut pas les enlever si on n'est pas conscience de tous ces points négatifs. La lumière du ciel projetée sur les choses de la terre nous fait voir ces choses à leur vraie valeur et nous enseigne le chemin à suivre pour marcher selon Dieu dans l'esprit. Quand un homme meurt physiquement parlant, il doit abandonner ses possessions. Tout ce que nous possédons comme richesse sur terre, quand on meurt, on lâche tout. D'ailleurs, j'aime bien cette image orientale. On dit, l'enfant quand il naît, il est comme ça. Mais quand on part, on est comme ça. Tout bébé qui naît, il est comme ça. C'est-à-dire, nous voulons tout. Dès que l'être humain naît, je veux tout. Mais on oublie, quand on meurt, on lâche tout. Quand un homme meurt physiquement parlant, il doit abandonner ses possessions, si grande soit-elle. Essayons maintenant de nous représenter cet homme venant vivre à nouveau sur la terre. Ne croyez-vous pas qu'il envisagerait les valeurs sous un autre angle? Ou est-ce qu'il vivrait comme avant, puisqu'il a expérimenté la mort? Est-ce qu'il donnerait autant d'importance à ce qu'il a vécu avant? Je ne le crois pas. Mais c'est notre position. Nous sommes morts. Réalisons notre mort et beaucoup de choses, on se libérera de beaucoup de choses. Spirituellement, c'est exactement ce que le plan de Dieu a prévu en identifiant le pécheur à son sauveur. Sur la croix, la mort de Christ appropriée aux croyants le sépare des choses terrestres, si bien qu'il vit désormais comme quelqu'un qui a sa demeure dans le ciel. Je vais écourter, parce que vu le temps qui passe, et je passe tout de suite à la conclusion. Quelle profondeur la croix doit faire en nous? Si profond que nous mourons entièrement à tout désir d'avoir une bonne réputation. Une réputation, pas spécialement quelqu'un qui s'élève, mais le fait de faire confiance à soi, déjà c'est une réputation, en quelque sorte un égoïsme. Tant qu'on a une confiance dans ce que nous faisons, tant qu'on a une confiance dans notre chair, tant qu'on a confiance que nous pouvons servir Dieu, eh bien, nous avons besoin que la croix fasse son œuvre en nous. C'est ce merveilleux message de la Bible que l'apôtre Paul nous enseigne, que le Seigneur nous a laissé à travers ses paraboles. Toutes les paraboles que nous pouvons citer, c'est la croix. Nous devons mourir à nous-mêmes pour que Christ prenne toute la place. Puissions-nous consentir et accepter cette réalité-là? Je sais que la chair fera tout pour ne pas l'accepter. Je le reconnais, je suis un être humain. Et le diable, profitant de cette chair, il va pousser la chair pour lui dire « Tu es capable !» parce qu'il a peur de lui rappeler sa défaite. Puissions-nous consentir à accepter cette réalité et à réaliser tout ce que la croix représente afin que nous soyons rendus capables de connaître la puissance de la résurrection de Christ, étant rendus conformes à lui dans sa mort. Et je termine par une lecture dans Philippiens, chapitre 3, verset 10, et ce sera la lecture de la fin. Philippiens 3, et je lirai même de 8, je vais lire de verset 8 jusqu'à 11 même, voilà, 8, 11. Et même, c'est l'apôtre Paul qui parle en s'adressant aux Philippiens. Il peut s'adresser à nous aussi. Non seulement il peut s'adresser, il s'adresse à nous. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, le mot justice, ça veut dire ma logique. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, oui, passage de la croix, nous-mêmes, de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Que le Seigneur nous aide à cheminer vers ce dépouillement. Amen. Comme d'habitude, ce sujet est ouvert à la discussion et au partage dès mercredi soir. Et cette fois-ci, l'horaire a changé, c'est 20h.